Guerre totale, parce que nous sommes de tous les pays d'Europe celui où les jeunes fument le plus de cannabis. L'idéologie héritée de 68, qui a consisté à supprimer l'interdit social sur la drogue, est une catastrophe. La notion même de drogue douce est une absurdité. Si c'est une drogue, elle n'est pas douce.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
J'ai de la bonne herbe pour vous, hein ? La meilleure qualité de toute la région.
Cannabis Circus.
Si je suis élu président de la République, je ne légaliserai pas la drogue, je la combattrai.
Radio Canu.
Cannabis Circus.
Yes, bonjour à tous, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et comme tous les lundis soirs, avec le cirque pour l'émission Cannabis Circus, bien sûr. Aujourd'hui au sommaire, pour des trucs aux États-Unis. On va aller faire un tour dans la ville de Washington avec le Sénat qui en fait des siennes. On ira faire un tour en Alaska, on fera le bilan du Colorado. On regardera aussi différents faits français, la suite des pérégrinations de 53 kilos de cocaïne, un surveillant soupçonné de trafic de drogue, des anecdotes sur les guignols. Des brèves plus européennes avec la mère qui rejette beaucoup de choses, hein. De la drogue aussi, et il y a beaucoup de gens qui vont à la pêche dans ces périodes de disette. Un petit article aussi sur la Suisse, et puis on reviendra sur des articles de fond en fin d'émission sur le cannabis, médicament ou thérapeutique. On en avait parlé un tout petit peu la semaine dernière, mais on revient dessus. Et un petit peu sur Rock, là, on n'en avait pas du tout parlé. Vous savez, il avait fait un rapport sous Kouchner.
Au siècle dernier.
Voilà, tout à fait. C'est bien ça. Il y a au moins 30 ans.
Ah bah non.
20 ans.
Non, 16 ans, exactement.
C'était en 2000 seulement.
C'était en 1998.
Ah. Voilà.
98, 2014, 16 ans.
Je pensais que c'était même avant, tu vois.
Non, quand même.
Voilà, un petit peu pour ce merde, ce lundi 15 décembre.
Si oui, il paraît.
Voilà, quelque chose à rajouter, non?
Non, pour le moment. On va écouter de la musique.
Pas d'actualité cirque, rien.
Pas trop, parce que on est quand même dans une période de l'année où c'est pas trop le moment de faire une manif. C'est plutôt au mois de mai pour la marche mondiale. L'appel du 18 juin, c'est plutôt au mois de juin. Il y aura certainement cette année encore le salon Technigro à l'espace double mixte. Et on vous en dit pas plus, en fait.
D'accord.
On en parlera, sans dire ce qui va se passer. Mais on vous tiendra quand même au courant. Peut-être a posteriori, mais peut-être a fortiori aussi. Voilà. On vous en dit pas plus pour l'instant. Ça sera au mois de mars, alors. On a le temps.
Bon, pour le cirque, 06 11 53 10 07.
Voilà. Puis on vous donnera d'autres coordonnées plus tard, dans le cours de l'émission. Allez, musique.
Deux feuilles hantées. Non, ne m'assimilez pas, non.
fly.
De s'écouter Mister Gang, Liberté illégale.
Oui, bien.
Voilà, voilà.
Alors, après la musique, les infos.
Les infos, que se passe-t-il aux States ?
Eh oui, alors aux États-Unis, on en parle régulièrement depuis. On en parle toujours un peu régulièrement parce qu'il se passe des choses. Et il s'est quand même passé des choses très très importantes et très intéressantes ces derniers mois. Il y a quand même eu plusieurs États qui ont légalisé, le Colorado, l'État de Washington, dernièrement l'État de l'Alaska, l'Oregon, des villes aussi qui ont fait changer leur petite législation au niveau local, donc la ville de New York et la ville de Washington. Mais à Washington DC, donc la capitale, visiblement, tout le monde n'est pas de cet avis, tout le monde n'est pas de l'avis d'accepter en fait les résultats du référendum qui est passé au mois de novembre.
Bah, en fait, c'est que surtout qu'il y a un petit truc, c'est pas un État comme les autres, la ville de Washington.
Oui.
C'est
une ville
sous tutelle du Congrès. Et donc, pour l'instant, c'est passé à la Chambre des représentants. Ça va être sans doute la même chose au Sénat, et ils se sont opposés au vote du budget en refusant à la capitale les moyens financiers de mettre la loi en application.
Alors que c'est qui refuse, en fait ?
Donc c'est le Congrès. Pour l'instant, c'est la Chambre des représentants, mais ça devrait être pareil avec le Sénat. D'après l'article, hein, on va voir, puisque le vote du Sénat n'a pas encore eu lieu, ou il a eu lieu ces temps-ci.
Ouais, alors c'est un article tout récent. Hein. Alors c'est marrant, on n'a pas trouvé de traces de tout ça dans la presse un peu plus classique, on va dire. Ça, c'est dans lorientlejour.com qu'on apprenait ça. Il y a des chances que ce soit repris peut-être dans plusieurs jours par Libé, par d'autres journaux. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même intéressant et ça me surprend pas. Je me doutais quand même que ça pourrait pas passer aussi facilement, quoi. Alors bon, heureusement, les pros cannabis, en fait, ils vont pas se laisser faire, hein. Au moins là-bas ils sont peut-être un peu plus nombreux et plus puissants que le cirque en France, c'est pas bien difficile non plus. Mais en tout cas, voilà ce que dit ce que dit, je vais retrouver son nom, Monsieur Heidinger, voilà. Il dit que les habitants du district de Columbia, donc c'est District de Columbia, c'est DC, de Washington DC, District of Columbia, voilà. Donc les habitants du District de Columbia ont mis un terme à la prohibition de la marijuana et nous ne ferons pas demi-tour. Apparemment, il y aurait des ambiguïtés dans la formulation de la part du Congrès. Quand ils ont refusé de voter, ils ont dit voilà, on votera pas tel et tel truc, alors qu'en fait c'est pas de ça dont il s'agissait précisément. Donc voilà, Monsieur Heidinger, donc de DC Cannabis Campaign, il dit voilà, si on doit aller jusqu'au bout devant les tribunaux pour défendre la volonté des électeurs, on le fera. Et il rajoute, j'ai été assuré par nos supporters que nous en aurions les moyens financiers. Voilà. À suivre, donc. À suivre. Mais c'est pas gagné, quoi.
Mais c'est pas gagné.
C'est pas gagné. Voilà. Mais c'est vraiment un déni de démocratie par certaines instances républicaines, entre guillemets, des États-Unis. Mais il n'y a pas que aux États-Unis, on respecte pas la volonté du peuple. Hein. En 2005, il y a eu en Europe le référendum sur, enfin en tout cas en France, sur la Constitution européenne, rejeté par les Français, mais pas que. Il y avait d'autres États qui avaient rejeté la Constitution aussi. Et ça n'a pas empêché les chefs d'État ensuite de la voter, ne respectant pas donc la volonté des peuples. Donc il n'y a pas qu'aux États-Unis, ça se passe aussi ailleurs et en Europe malheureusement. Et donc il faut continuer à se mobiliser, être vigilant sur ces méfaits des personnes qu'on élit. Voilà. Toujours aux États-Unis, un article de Marianne.net intitulé L'Amérique est en pétard et ça la fait rire. C'est un article qui nous vient du blog de Stéphane Trano. Voilà, pas mal de personnes qui s'expriment un peu sur Internet, qui s'est repris ou pas par des médias. Donc là, c'est Stéphane Trano qui. Je ne sais pas qui est Stéphane Trano.
Moi non plus. Je ne sais pas. Totalement. Quel est cet individu ?
Voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit Stéphane Monsieur Trano ? Il explique qu'il n'y a pas que l'exploitation du gaz de schiste qui fait la joie de l'Amérique. Il nous dit aussi qu'en cette fin 2014, il pleut des billets verts sur les montagnes du Colorado et bien au-delà, et que l'on voit se multiplier une nouvelle classe de travailleurs plutôt détendus. Alors là, c'est pas dit, mais on en avait déjà parlé.
Le cannabis business vient d'être autorisé dans la République Alaska.
Voilà. Mais alors du coup, il parle pas de la nouvelle classe de travailleurs plutôt détendus ou de businessmen. On appelle ça les ganja-pruners. Voilà. C'était déjà dans un article précédent, on en avait parlé. Là, il ne parle pas des ganja-pruners, mais il parle du cannabis-ness, effectivement, donc à propos de l'Alaska, qui est un État républicain.
Oui, tout à fait. Et donc, qui est le quatrième État donc, à légaliser. Voilà, donc, bien que le troisième, Washington DC, on n'est pas sûr que ça aille au bout.
Alors, le gouverneur de l'État de l'Alaska, c'est Sean Parnell, donc qui est un républicain. Mais, en tout cas, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. En Alaska, il y a eu un gros pourcentage de pour, si je me rappelle bien. Hein. Alors après, on parle un peu des autres États et un peu de ce qui se passe au Colorado. Je trouve que c'est ça qui est plus intéressant. En fait.
C'est là qui est le plus intéressant, tout à fait.
Ouais, parce qu'il faut savoir que déjà, dans le Colorado... le cannabis-ness a déjà créé 18 000 emplois. C'est plein de boulots en fait hein, qui sont concernés. Ça va de la plantation des plantes, ouais, oui. La vente, mais ça passe aussi par la promotion, les agences touristiques qui offrent déjà désormais des packages aux touristes en fait. Un week-end de défonce au meilleur prix avec vue imprenable sur la montagne par exemple. Mais il y a aussi ceux qui récoltent, qui affinent le produit, ceux qui inventent les emballages, ou encore ceux qui éduquent le bon peuple consommateur, qui se laisse parfois surprendre par la puissance des bonbons au cannabis ou des space cakes. Sans oublier les comptables et les VRP.
Voilà, oui, bon, ça fait du monde. Hein. Et donc, pour un petit état quand même, hein, quoi, grand par la taille, hein, ça doit faire presque la moitié de la France. Mais par contre, en habitants, il y a 4 millions d'habitants. Donc si on multiplie bêtement hein, par 14, on arrive quand même à 250 000 emplois.
Ah d'accord. Qui peuvent être créés en France.
Et si en plus on essaye de créer ça intelligemment un peu à la méthode de l'Uruguay, je pense qu'on crée encore plus
d'emplois.
Plus d'emplois, voilà, tout à fait,
dans
l'agriculture.
D'accord, oui, bon, donc, 18 000 emplois créés au Colorado. Alors, les détracteurs avançaient que s'il y avait ces légalisations, ça allait devenir une véritable menace majeure pour la jeunesse, pour la sécurité publique. Il y aurait un bond de la délinquance et des accidents. Et en plus, un vrai péril sanitaire. Alors là, c'est pas dit dans l'article, mais en tout cas, on sait déjà, parce qu'il y a quand même eu déjà des résultats, il y a quand même eu une baisse de la délinquance au Colorado, une baisse des vols de voitures, notamment une baisse des cambriolages, enfin bon, plutôt, et surtout une entrée d'argent dans les caisses de l'État, parce qu'il y a quand même beaucoup de taxes qui sont prélevées à ce sujet. Donc bon, là, c'est pas dit, mais nous, on vous le dit. Après, on parle un peu plus de pragmatisme américain par rapport à ce que, en général, il se fait aux États-Unis. Alors justement, les lobbies du pot, du cannabis, eux opposaient que toute cette politique avait un coût exorbitant, notamment de par les condamnations, les incarcérations de vendeurs ou de simples consommateurs de cannabis. En plus, c'était des violations des droits humains avec des peines de prison totalement irrationnelles et disproportionnées, pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison dans certains États, y compris même en Californie, qui pratiquait l'automaticité des longues peines en cas de récidive, même pour les mineurs. Voilà. Alors, en Californie, il n'y a pas de légalisation, il y a une dépénalisation, une légalisation du cannabis thérapeutique. Mais bon, du coup, vous voyez un peu les incohérences ou les paradoxes. Mais pour finir, Monsieur Trano, donc Stéphane Trano, finit par son article par dire que l'argument a fini par faire son chemin dans un pays où le système pénal est également une catastrophe et où ce qui finit par coûter trop cher, c'est le cas de plus en plus souvent avec la peine de mort, est tôt ou tard remis en cause. Voilà. Voilà, voilà pour les États-Unis, pour l'instant. On y reviendra, on aura d'autres articles dans le...
Sans doute, dans peu longtemps, on va continuer tranquillement avec la France.
Eh bien, oui, continuons avec la France.
Ou tu veux qu'on fasse une pause musicale
Allez, une petite pause musicale, aujourd'hui.
Ouais, mais on faudrait une courte, alors.
Ah ben, une courte, alors.
Bon, ça y est, on va mettre celle-là.
Ah oui, je sais déjà celle que tu vas mettre.
Eh ben non. Et voilà, donc on vient de s'écouter Bob Dylan, Rainy Day Woman.
Merci Bob. Bon, allez, on a dit qu'on allait faire un petit tour dans l'Hexagone, donc en France, donc quelques articles, donc Le Parisien notamment, et Le Parisien. Alors le premier, Le Parisien, à propos d'un policier qui a été réintégré après le vol de 53 kilos de cocaïne à la PJ, et l'autre article du Parisien également concerne un surveillant de prison soupçonné de trafic de drogue. Ça c'est pareil, il y en a beaucoup ces derniers mois, là, des articles sur des policiers qui sont suspectés, poursuivis suite à des disparitions ou des vols, enfin des disparitions on va dire, de substances psychotropes illicites qui sont dérobées à leurs propriétaires lorsqu'il y a des enquêtes. Et donc qui sont placés sous scellé dans des endroits bien particuliers des locaux de la police ou des archives, j'en sais rien.
Bah, là, ça a fait grand bruit quand même. Il parlait pendant 2-3 jours à la télé et tout ça, de cette histoire-là, de ces 53 kilos de cocaïne qui avaient disparu. Qu'est des orfèvres, vous vous rendez compte, ma brave dame? 53 kilos.
C'est tout.
Et c'est pour ça que bon, là, tu vois, on le voyait rentrer avec casquette et tout, un peu cagoulé, et ressortir.
J'ai pas fini en fait. Ce que je voulais dire en introduction, c'était que des affaires comme ça, régulièrement depuis le mois de septembre,
il y en a plein. Pas mal, ouais.
Et on les prend pas toutes, voire on les prend pas. Je les survole un peu en faisant la revue de presse. Et bon, comme aujourd'hui, on a une actu qui est pas super riche. Bah, j'en ai pas. Je les ai prises, je les ai rajoutées à la revue de presse, puis bon, ça nous donne l'opportunité d'en parler un peu plus.
C'est bien celle-là, au moins, on en avait parlé, on a une petite.
Je ne me rappelle pas, pourtant. C'est celle du 53 kilos.
Ouais, 53 kilos. D'ailleurs, je croyais que c'était de l'héroïne, là, c'est cocaïne, mais bon, c'était de la poudre. Hein.
Vas-y, alors, je te laisse.
Et justement, le Gugus, 53 kilos, ça se porte pas comme ça, même dans un grand sac, quoi, mais bon. Il doit être quand même assez balèze, le Gugus, pour se porter ses 53 kilos. Alors, je sais pas s'il l'a fait un ou deux voyages.
C'est bien conditionné, bon, tout mis dans un sac à dos, ça passe.
Ouais.
Gros sac à dos de randonnée, par exemple, ou d'alpinisme, on sait rien. Ça rentre. Si c'est bien conditionné. Ce qui peut être le cas. Hein.
Ouais.
C'est des produits d'exportation. Bon.
Et là, le truc, c'était de savoir s'il avait un coupable ou un complice ou pas.
Un complice ou pas, ouais.
Et a priori, bah, il n'en avait pas, ou en tout cas, le complice présumé, un autre policier, a été réintégré. Donc,
bah, et y en
a priori, il n'est plus suspendu.
Bah oui, bah, ce fonctionnaire de police-là, bon, comme tu dis, a été réintégré.
Il en reste un et en prison.
Il y en a, il en reste un qui est toujours incarcéré, et qui est considéré comme le principal auteur présumé pour l'instant du vol. La police des polices qui a fait une enquête, et ils auraient découvert dans son téléphone portable la combinaison d'un coffre-fort qui renfermait des clés donnant accès à la salle des scellés, à l'intérieur de laquelle justement les 53 kilos ont été dérobés. Et dans ce même dossier, Le Parisien nous apprend que des experts en serrurerie nommés par les juges d'instruction ont déterminé que la porte de cette salle pourrait être ouverte non pas par 4 clés, mais 9, contrairement à ce que soutenait la direction de la PJ parisienne depuis le début de cette affaire délicate. Donc c'est pas clair tout ça encore. Parce que là,
c'est qu'il y avait plus de clés qu'on croyait.
Oui, mais du coup, là, au niveau de...
T'as encore des coups des services techniques, ça.
Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que la direction de la PJ, elle dit, voilà, il y a 4 clés qui peuvent ouvrir, et en fait, il y a une enquête, et ils disent, bah non, il y en a 9.
Ouais, donc, on a trouvé 9.
Il y a un souci, là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, non? Enfin, il y a un problème.
Ouais, bah oui, non, c'est que ils étaient mal informés.
Bah, mal informés, et puis, voilà, enfin, il y a plus de détenteurs de clés que prévu, non?
Oui.
Ou il y en a un qui a 5 clés pour lui, enfin, je sais pas.
C'est des problèmes qu'on a partout.
Hein. Donc.
Y compris ici, dans cette bonne radio.
Oui, mais bon, on n'est pas dans un commissariat de police, quoi. A priori, il y a quand même des enjeux de sécurité autres que les clés de Radio Canu, non?
Ouais. Voilà. Alors, et sinon, l'autre, bah, c'est un surveillant de prison qui est soupçonné de trafic de drogue, hein, c'est à Osny.
Alors donc, pas que trafic de drogue, hein. Drogue, téléphone portable, alcool, récupération ou importation de colis contenant des produits pas forcément très autorisés en prison, voire franchement interdits. Et il faisait du business en fait, hein, avec les détenus. Enfin, il leur revendait des trucs, il touchait je crois jusqu'à 1000 euros par colis introduit. Enfin bon, lui, le surveillant était dans la faisait du business, mais dans sa combine à lui, il y avait d'autres détenus, donc qui pouvaient être ses complices, et il avait pour clients des détenus également, quoi. Un peu ce que j'en ai compris. Je sais pas si.
Voilà, mais c'était un trafic juteux a priori.
Voilà, un jeune homme, hein, d'ailleurs, 30 ans, le surveillant, donc un tout jeune surveillant, voilà. Et donc, ça s'est passé à Osny, dans le Val d'Oise. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà, encore une fois, je rappelle, hein, des histoires comme ça dans la presse quotidienne régionale. Il y en a souvent. Des histoires de policiers, de surveillants. C'est assez fréquent, vraiment.
Oui, oui,
j'insiste.
Comme des histoires aussi de petites arrestations, de ci, de ça.
Bon, là, c'est encore une autre échelle.
Oui, c'est encore une autre échelle.
Il y en a aussi beaucoup, on n'en parle pas à chaque fois. Mais du coup, ben, on le répète quand même assez souvent, faut faire attention, quoi. Soyez vigilants. Soyez vigilants, quoi, tout simplement. Sortez pas dans la rue avec des grosses quantités dans les poches. Il y a eu un cas aussi, il n'y a pas longtemps, d'une personne qui était convoquée à la police pour répondre à un interrogatoire, et il s'est rendu à la police avec les poches remplies de cannabis. Bon, bah, si la police vous interroge, vous met en garde à vue, qu'elle fouille vos poches, que vous vous rendez, ça va mal se passer, quoi. Ça va mal se passer. Donc voilà, faut quand même réfléchir un peu. Voilà. Ce que j'en dirais.
Voilà, faut faire attention, faut pas faire les guignols, hein.
Faut pas faire les guignols, sauf si on bosse à Canal+, hein, encore voilà. Une fois, alors moi j'ai voulu mettre ça parce que pour moi c'est encore une fois une discrimination.
Voilà, d'ailleurs, je trouve Philippe Vandel sur cette interview assez phénoménal parce qu'il
avoue qu'il balance quand même
qu'il se servait des marionnettes des guignols pour cacher leur dope.
Notamment celle de Jacques Chirac.
Voilà, dans laquelle ils sont arrivés jusqu'à y mettre 1,5 kg de shit dedans. Hein. Quand même, donc c'est quand même des grosses têtes.
Oui, il y avait une grosse tête, Chirac. Ils ont des grosses têtes, les guignols. Hein. Enfin, les guignols sont plus grands que les personnages en nature, enfin, normaux. Ou humain.
Voilà, parce qu'en en fait, il aurait été 1,5 kg de shit dans la tête de Chirac, ajoute-t-il. Ah, ça aurait été bien comme titre de journal.
Ah oui, voilà, mais on n'a pas compris ce que tu as dit. C'est pourquoi dans la tête à Chirac. Et il répond, bah, parce que si la police avait arrêté, avait attrapé la marionnette ou les gens, il y aurait eu des gros titres dans les journaux. On a trouvé 1,5 kg de shit dans la tête à Chirac. Voilà, c'était ça. Donc, il a expliqué que c'était la première fois qu'il racontait cette histoire.
Voilà. Voilà.
Mais c'est pas un scoop, hein, franchement, des histoires. Enfin, comme quoi il y avait des bons fumeurs de pétards à Canal+, c'est pas non plus une légende. Hein.
Voilà, mais par contre, Canal+, n'était pas celle de tous les excès. Hein. De la coke, non, rien.
Apparemment,
sur les tops, dans les couloirs, bonne organisation. Jamais je n'en ai vu une seule fois, dit-il. Hein. Âge d'or ou pas, en revanche, dehors, 1000 fois j'en ai entendu parler.
Voilà, donc plutôt le shit, mais pas la coke, voilà. À Canal. Et enfin, pour
voilà,
finir...
Voilà ce qu'il dit, oui.
Pour finir... son interview, publié dans le Huffington Post, il dit comme ça qu'enfin, en fait, le fameux esprit canal n'a jamais existé. Alors, c'est quoi l'esprit canal? Je sais pas. En tout cas, il n'a pas existé. Donc, alors, c'est un peu ironique, hein, quand je dis c'est quoi l'esprit canal, je pense à peu près savoir ce que c'est. C'est un peu de la déconne, de la bonne humeur. Un esprit différent des autres chaînes de télé. Et en fait, tout ça n'existe pas, c'est du flan, quoi. Donc Canal, une chaîne aussi pourrie que les autres, finalement. Voilà, moi j'ai compris ça comme ça, je sais pas si toi tu l'as compris autrement, mais en tout cas je trouve que c'est... Je me suis dit quand même, pour dire des choses comme ça, il a un petit peu envie de régler des comptes avec son ancienne chaîne de télé.
Peut-être.
Voilà. Et par contre, pour terminer là-dessus, là, pour moi, il y a une discrimination. C'est-à-dire que, voilà, un gars qui a bossé à la télé, qui bosse toujours à la télé ou à la radio, et il peut dire ça publiquement, en fait. Et il n'y a pas de poursuite.
Rien de rien.
Voilà. Ouais. N'importe quelle autre personne, même nous, hein, Radio Canu, hein, je pense que si on dit des choses, on disait ce genre de choses, je pense qu'il y a de fortes probabilités pour qu'on soit convoqué à la police pour répondre à des questions, quoi.
Oui, voilà. Tout à fait.
Tout bêtement. Donc, voilà, c'est encore la preuve que quand on est à la télé, qu'on est un peu une vedette, ou presque. Et qu'on consomme des drogues illégales, on risque pas ou peu de poursuites avec la justice. Alors que pendant ce temps, 150 000 personnes sont interpellées tous les ans en France pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, et que 90% de ces infractions concernent une possession ou un usage de cannabis. Et que sur ces 150 000 personnes, il faut savoir quand même qu'il y a près de 3 000 condamnations à de la prison ferme par an. Voilà, encore une fois.
Ouais, 3000, ouais, je sais pas, je crois qu'il doit même y en avoir plus de gens qui meurent en Méditerranée.
Qui meurent en Méditerranée, c'est un autre sujet.
En la traversant. Oh, c'était pour les chiffres, parce que y a beaucoup de choses qui tombent à la mer et que les gens, quoi, qu'on essaye de faire traverser la mer et qu'ils ne traversent pas. Et il y a aussi des canaux pneumatiques remplis de drogue qui traversent. Et là aussi, ça a été un drame, hein, parce qu'ils ont été surpris par les gardes-côtes. Ils ont essayé de changer de cap et puis ils sont retournés. Donc les trois petites embarcations, a priori, se sont renversées, ont coulé et relarguent leur cargaison. Mais a priori, les trois hommes qui les accompagnaient, il y en a au moins deux qui sont morts noyés, et le troisième serait toujours recherché. Donc voilà. Mais à la suite de ça, par contre, la mer, voilà, a rejeté régulièrement des petits paquets et
sur les plages,
les gens se sont rués pour aller
récupérer les paquets échoués.
Voilà, à fait.
Vers Cadix. En Espagne.
Et donc, 70 personnes ont été arrêtées pour avoir récupéré de la drogue.
Je suis étonné qu'il y en ait autant.
Parmi lesquels une grande majorité de jeunes hommes d'une vingtaine d'années. Voilà, alors avant, il y en avait un petit peu, mais jamais jusqu'à cette échelle, disent-ils. Les gens essayaient, ils disaient, il paraît qu'avec un paquet, on peut faire 100 euros. Ça va me permettre de pouvoir payer mon appartement.
Oui, parce qu'en Espagne, il y a une telle précarité suite à la crise que beaucoup de gens n'ont plus de boulot, n'ont plus d'argent. Les services de sécurité sociale, de soins gratuits, tout ça, pour l'instant, c'est plus possible. Donc, il faut tout payer, en fait, même sa santé. Donc, quand on voit le prix que coûtent certaines substances, il faut comprendre qu'il y en a qui puissent être motivés pour récupérer, faire un peu de business pour payer leur loyer, leur bouffe, hein, tout ça, quoi. Alors, c'est pas la première fois, hein, qu'il y a eu ce genre de choses. Il y a eu déjà le même phénomène dans le bassin aquitain, en fait, c'était il y a 10 ans, entre Hendaye jusqu'au bassin d'Arcachon. Il y avait eu à l'époque un échouage de cocaïne pure à 85%. Près d'une tonne avait été saisie par les forces de l'ordre, mais une partie avait sans doute été récupérée par des particuliers qui avaient trouvé des colis échoués sur les plages du littoral. Voilà.
Gone, gone, gone. One, two. One, two, three. Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you want. Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you like. Cause I feel happy anytime you think of it, anytime you roll it. Don't be small, don't smoke it all, don't make my joint so small. Cause ganja, ganja, ganja's right for me. Cause ganja, ganja, ganja's right for me. Ganja, ganja, marijuana.
Ganja, ganja, marijuana. Ganja, oh yes, ganja, marijuana is what we need. Ganja, oh yes, ganja, marijuana is what we need.
Aïe, ganja, ganja, les Castafiore Bazooka, ganja. C'est quand même bien, ganja, ganja in the night, ganja in the morning.
Certes, bien. Alors, on va parler un peu de la Suisse maintenant, avec un...
Un petit article bien ouin-ouin, oui. Mais très intéressant.
Ouin-ouin ? Pourquoi ouin-ouin ?
Ouais, très suisse, quoi.
Bon, je sais pas, je vais pas trouver, mais... C'est voilà, c'est un billet d'humeur d'un député vert lausannois, Vincent Rossi, voilà, qui propose que l'État gère le commerce de la drogue, mais surtout.
Mais qui rêve d'un monde sans drogue ?
Non.
Point d'interrogation.
Ah, c'est la question.
C'est la question,
oui.
Qu'il okay. pose en, oui. en titre quand même.
Mais qui rêve d'un monde sans drogue ? Donc en fait, voilà, il critique une autre personnalité politique, un député qui s'appelle François Bréla. François Bréla, donc, qui lui est contre la drogue illicite. Bon, il est contre une drogue qui est déjà interdite, mais par contre, il n'est pas contre l'alcool et le tabac. Donc oui, il s'en prend à lui là-dessus, je trouve ça super intéressant. Et il demande en fait aux opposants, enfin aux prohibitionnistes, d'être cohérent dans leur démarche et d'être cohérent jusqu'au bout, c'est-à-dire de prohiber toutes les drogues, y compris celles qui sont légales aujourd'hui, comme l'alcool et le tabac.
Tout à fait.
Donc ça, c'est intéressant. Et donc voilà, ma première critique porte sur l'incohérence de ces propos, donc de François Bréla. Pourriez-vous deviner si la phrase « cette substance ralentit les réflexes et déforme la vision » pourriez-vous deviner si cette phrase s'applique au cannabis ou à l'alcool ? Par cette phrase, Monsieur Bréla, dénonce ici les méfaits du cannabis. Faut-il encore répéter que l'alcool et le tabac tuent chacun bien davantage en Suisse, ou en France d'ailleurs, ou dans le monde, chaque année, que toutes les autres drogues réunies, y compris lorsqu'elles sont illicites. Il est donc injustifiable de se dire contre les drogues et de ne pas lutter avec la même force contre les drogues légales. Voilà. Alors j'ai voulu mettre cet article dans la revue de presse, parce qu'on entend quand même assez rarement ce point de vue, ou en tout cas la critique à ce sujet.
Tout à fait, c'est tourné différemment, donc c'est sympathique.
Voilà, donc ensuite il y a une deuxième critique qui porte plus sur le fond, c'est-à-dire le constat qui est fait que la lutte contre les drogues est perdue, et même à des endroits où on a ultra-militarisé cette lutte. Il y en a un pays qui est quand même assez en pointe là-dessus, c'est le Mexique.
Une dizaine de morts par jour quand même.
Oui, et puis des centaines de milliers de morts depuis 2006.
Tout à fait. Voilà. Un nombre de meurtres et de mutilations catastrophiques.
Voilà, et bon, et chose très bien, c'est qu'ensuite, il n'hésite pas à parler de la France. En Europe, les pays les plus répressifs, comme la France, connaissent un taux de fumette plus élevé que les pays où la prévention est crédible, comme la Hollande. Et donc de proposer que l'État fixe les règles, fiscalise et éradique le marché illégal. Donc double leçon, lutter aveuglément tue et corrompt, mais ne diminue ni la consommation ni les addictions. Une gestion de la distribution et un discours préventif crédible diminuent la consommation et les dommages liés aux addictions. Une lutte sérieuse passe par un contrôle du marché. Il est intolérable que la production et la distribution de marchandises aussi dangereuses soient confiées à des organisations criminelles. L'État doit fixer les règles, fiscaliser et éradiquer le marché illégal. En parallèle, pour terminer, c'est un article assez court, hein, en parallèle, il faut impérativement un discours crédible sur ce que sont les drogues. Le risque de dépendance et d'autodestruction existe pour une immense variété de produits et de services qui incluent, outre l'alcool et le tabac, les médicaments, le sucre et le jeu. Un monde en noir et blanc, comme le voient certains manichéens, ne distingue pas les dangers qui se cachent dans les nuances. Une éducation adéquate permettant de faire attention aux signes de dépendance est nécessaire pour maîtriser les risques, plutôt qu'une diabolisation stérile et ouvrant la pernicieuse porte de la tentation. Et il finit par dire « Il y a des gens qui rêvent d'un monde sans drogue ». Voilà. Petit article avec des propos assez clairs et concis. Et voilà.
Et
oui.
Concis. Bien.
Ensuite, parlons un peu de, si tu le veux bien,
je t'en prie,
de cannabis récréatif, mais aussi de cannabis médicinal. Donc, c'est, on n'en a pas parlé, c'est un...
On l'est passé en très très rapide. C'est l'autre de ce rock qu'on n'avait pas vu du tout.
Ah, on va peut-être plutôt parler de rock alors. C'est plus... Il nous reste plus beaucoup de temps, alors...
Oui, en plus, il fait mieux la liaison avec l'autre, justement, l'article suisse qu'on vient de voir avant.
Tu as raison, c'est vrai.
Puisque, voilà, drogue légale, drogue illégale, qu'est-ce que fait la différence Et c'était là-dessus, en fait, qu'il y avait une petite révolution à l'époque avec ce rapport.
Tout à fait. Alors là, on va vous parler, donc c'est en fait, c'est un article qui est issu de la lettre du Collège de France. Le Collège de France, comment on pourrait décrire le Collège de France ? C'est pas une université.
Ouais, c'est un truc qui dépend du Sénat ou de...
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pardon, le Collège de France, c'est un lieu d'enseignement de
prestige.
Oui, assez prestigieux. C'est là où officiait Pierre Bourdieu, quand
D'accord.
même. Donc, voilà, un certain nombre d'intellectuels professent au Collège de France. Voilà, cet article est tiré donc de la lettre du Collège de France, un entretien avec Bernard Rock et Marc Kirsch. Donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vous avais donné les coordonnées sur internet pour aller consulter cet article. C'est pas un article neuf, c'est un article qui une interview donc qui date de 2010. Je préfère en parler parce que il y a des choses dedans qui font quasiment explicitement référence à l'ancien gouvernement Sarkozy, à l'époque où Sarkozy était président, pardon. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que bon, voilà, l'article date de 2010, donc à moins que vous ayez hiberné pendant plusieurs années, vous savez donc que Nicolas S n'est plus président, mais que c'est un certain François H. Voilà.
Donc le rapport Rock, hein, pour remettre dans
le contexte,
dans l'époque, hein. Il a été remis en 98, donc il a été fait les quelques années avant. Il avait été demandé par Bernard Kouchner à l'époque,
ministre de la Santé de Jospin.
Voilà, donc dans sa lettre de mission, ce qui était demandé en fait, c'était une étude comparative entre la dangerosité en particulier centrale des différentes drogues, y compris l'alcool. Donc, il fallait regarder ça sous trois aspects qui s'expliquaient pour la définition des substances à risque d'abus et de leur contexte législatif. Voilà, à l'époque, les choses étaient très floues. Hein. Il y avait les drogues très dangereuses, donc c'était les drogues illicites. Donc, les opiacés, hein, les dérivés de la coca, les dérivés de... du cannabis, bien sûr, plus de temps en temps, et quelques champignons et autres, mais on en parlait encore très peu. Donc ça, c'était des drogues très dangereuses, et drogues pas dangereuses, l'alcool et le tabac, puisqu'elles étaient légales.
Alors que déjà, à l'époque, ça tuait des dizaines de milliers de personnes.
Hein. Mais mine de rien, dans l'esprit commun, ça reste encore vrai. Hein.
Oui, bien
pour
sûr.
Pour certains, l'alcool n'est pas une drogue.
Oui, et puis voilà, parce que c'est... Et puis, comme c'est légal, forcément, c'est moins dangereux que des substances qui sont interdites. Et qui tue plein de gens. Ah, alors que dans la réalité, nous savons bien qu'il en est tout autre.
Voilà, donc Kouchner en fait cherchait un peu à faire la distinction entre drogue dure et drogue douce, fondée sur le risque de dépendance, n'avait pas de sens pour plusieurs raisons, donc il fallait peut-être aller un petit peu plus loin.
Alors oui, alors... Juste petit truc là, petite parenthèse.
Vas-y.
Voilà. Là, ils disent bien, en effet, la distinction entre drogue dure et drogue douce fondée sur le risque de dépendance n'avait pas de sens pour plusieurs raisons. Voilà. Tout ça pour dire que quand même Sarkozy en 2006, lorsqu'il a fait campagne, et on l'entend je crois dans le générique de Cannabis Circus, il dit la distinction entre drogue dure et douce est une absurdité, il n'y a pas de drogue douce, sinon
elle ne serait... Si c'est une drogue, elle est dure.
Voilà. C'est pas faux ce qu'il dit Sarkozy là. C'est vrai qu'une drogue, drogue douce et drogue dure, ce sont des définitions complètement artificielles qui tiennent sur pas grand-chose de scientifique.
Le beau, si je me souviens bien, disait une phrase assez grotesque mais très belle.
Très juste, oui.
On peut consommer de façon dure des drogues douces et de façon douce des drogues dures.
Voilà, exactement. Donc voilà, là je voulais un peu quand même clarifier ce point. C'est pas pour donner raison à notre ancien président, pas du tout. En tout cas, lui, il obérait la distinction pour lutter contre. C'est pas l'intention du professeur Rock. Voilà. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était plutôt se baser sur des données plus scientifiques pour dire, là, il y a des drogues très addictives et là, il y en a qui le sont moins. Ou qui ne sont pas addictifs de la même manière.
Voilà, il y en a là, pour le tabac, c'est très rapide. Pour l'alcool, c'est extrêmement sévère. Voilà, donc il y a des...
Tous ces produits activent le système de récompense différent,
mais tous activent le même système de récompense. Voilà. Et l'autre chose, quand même, et là-dessus, on les applaudit, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de prendre les deux drogues... légal, le tabac et l'alcool, et les drogues illégales, mais aussi une quantité de molécules qui se sont dans les médicaments.
Tout à fait.
Et là-dessus, d'ailleurs, ils ont été... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié du tout qu'on en insère les médicaments dans la catégorie des drogues. Alors que, si on regarde la définition même d'une drogue, les médicaments en sont... En tout cas, les médicaments psychiatriques, et psychologiques et autres, divers et variés. Bref, en tout cas, ils ont regardé trois choses. La dangerosité sur le système nerveux central, les atteintes neuronales par exemple. La dangerosité générale pour l'organisme, qu'on peut aussi définir comme la toxicité générale. Ça, c'était le 2. Et en 3, la dangerosité individuelle. Et là, c'est plus compliqué. Donc c'est le risque pour l'individu. Donc
La dangerosité individuelle, c'est le risque pour l'individu, mais aussi la dangerosité interindividuelle, c'est-à-dire le risque causé à autrui après la consommation. Donc ça peut être les accidents de la route pour le cannabis, par exemple.
Tout à fait.
Ou l'alcool. Ou d'autres drogues. Enfin,
mais aussi, dans la dangerosité individuelle, on peut aussi voir ce qui se passe à l'occasion de la recherche du produit. Dans le cas de l'héroïne, les vols, les violences, etc., visant à se procurer le produit ou à l'argent nécessaire à son achat. Dans le cas de l'alcool, les risques sont bien connus. RIX, viol, comportement routier.
Non, pas vrai.
Non, mais ça fait plaisir de temps en temps de voir des choses exactes.
Les dites par des gens qui connaissent un peu les choses.
Donc toutes ces substances, y compris certains médicaments comme les antidépresseurs ou les benzodiazépines, changent nos états de conscience. Ce qui est la définition même des substances à risque d'abus, terme que nous avons préféré à drogue. Là-dessus, si vous vous souvenez bien, l'alcool était donc l'héroïne était et l'alcool étaient les deux produits les plus durs et le cannabis se trouvait dans les produits les plus doux ou les moins les substances les moins dangereuses, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut rappeler à l'époque le plan politique, donc on était toujours dans la loi de 70 avec
On est toujours hein.
Avec déjà à l'époque les problèmes pour savoir comment on luttait contre le VIH sans être en infraction avec la loi.
Oui, voilà. Parce qu'on est à cette époque-là, on est dans la directe continuité des programmes de substitution, d'échange de seringues qui ont été initiés d'abord en 87 par Michel Barzac, puis continués par Simone Veil en 95, Et voilà, l'arrivée de la substitution, la méthadone, plus tard le Subutex. Enfin, donc on était effectivement déjà dans cette dynamique. Voilà.
Voilà, et pour lui, en tout cas, vous avez raison, et ce qui fait débat aujourd'hui, c'était dans la démonstration de la très grande dangerosité de l'alcool. La consommation d'alcool est devenue à l'heure actuelle un problème majeur chez les jeunes, loin devant le cannabis. Voilà, ceci étant, notre rapport n'a pas vocation à inciter à légiférer, mais plutôt à informer les politiques de la réalité des désordres causés par les différents produits. Et donc, elle est comparée, etc., etc. Et donc, l'alcool, c'est plus dangereux que le cannabis.
Alors, oui, alors, quand même, déjà à l'époque, le rapport Rock avait quand même suscité pas mal de réactions, et notamment de la part du lobby des alcooliers. Et donc, il dit comme ça, voilà, les lobbies de l'alcool avaient retenu, parce qu'ils avaient fait un classement, donc ils avaient retenu uniquement ça, l'alcool, c'est plus dangereux que le cannabis. Ils ont développé l'idée que le cannabis est diabolisé en France pour des raisons peu scientifiques et affirmé que nous dédouanions ce dernier, donc le cannabis. Ce qui est inexact, le rapport indique clairement qu'aucune de ces substances n'est complètement dépourvue de danger. Toutes sont hédoniques. Le tabac a un degré nettement moins important. Tout active le système dopaminergique. Toutes sont susceptibles d'entraîner des effets plus ou moins accentués de dépendance psychique. On peut néanmoins distinguer trois groupes si on cherche à comparer leur dangerosité. Voilà. Mais je pense que même ça, ça ne satisfait pas les lobbies de l'alcool, quoi. Eux, ce qu'ils auraient voulu lire, c'était que le cannabis c'est dangereux et l'alcool non. Mais bon, venant d'un scientifique, c'était quand même peu. Il y avait quand même peu de chances qu'on en arrive là. Mais bon, tout est possible. Hein. Il y en a qui sont capables de dire à peu près tout et l'inverse à partir du moment où ils sont payés. Parce que c'est quand même le cas dans l'industrie du tabac, hein, quand même.
Oui, juste une chose par rapport à ce qu'on disait avant, un point qui est important entre l'alcool et le cannabis, je discutais récemment avec des jeunes étudiants en médecine, en deuxième, troisième année, on discutait des risques du cannabis sur le cerveau, etc., tout ça. Et du coup, comme je savais qu'ils buvaient beaucoup, je leur ai parlé, de rappeler de l'alcool, quoi. Qu'est-ce qu'ils en savaient, eux, des dangers de l'alcool sur le cerveau? Ben non, il n'y en a pas. Et donc, je les ai envoyés simplement sur Internet faire le comparatif, quoi.
Éventuellement, accéder au rapport Rock.
Oui, mais il n'y a même pas, il suffit de taper alcool, cerveau, et tout est dit, quoi. Ça fait warning, danger, d'autant plus quand on est jeune, etc. Les cuites le samedi soir, ça fait des désastres, surtout quand elles sont répétées tous les samedis, quand on a 14 ou 15 ans, quoi.
Le binge drinking, bien
sûr. Voilà, quoi, c'est tout est.
Voilà. Alors, bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps, et on va continuer et aller un peu dans le vif du sujet. Déjà qu'on y est un peu, mais vas-y.
Voilà, qu'est-ce que... Donc, en plus, donc, ce qu'il dit, c'est que c'est en stigmatisant le cannabis, on prenait le risque de dévier les consommateurs vers des drogues et des dangerosités beaucoup plus sévères. Donc, là aussi, c'est ce qui se voit avec avec l'OFDT qui parle souvent de la consommation donc de crack, d'alcool et de cocaïne chez les jeunes. Il parle un petit peu des bienfaits qu'il y a eu avec la Milt du temps de Nicole Naish-Rashi. Souvenez-vous, c'est quand ils avaient fait le livre « Savoir plus, risquer moins » où déjà il y avait marqué « Une société sans drogue n'existe pas ».
Ouh là là, très mal.
Ouh là là. Souvenez-vous, ça fait le pendant de l'alcool de notre Suisse, de l'article de notre Suisse, pardon.
Mais c'était il n'y a pas si longtemps. Hein.
Il y a pas si longtemps.
15-16 ans, et aujourd'hui, il n'est plus possible de dire ça. Hein,
oui, non, c'était moins que ça. C'était.
Ah, si, c'est sorti, c'est paru en 98. C'est suite au rapport Rock.
Oui, non, mais ça a duré jusqu'en
2002. Après, M. Chirac a été réélu, et il a mis Didier Gel à la tête de la Milt. Ah, Didier Gel.
Et Sarko à l'intérieur, puis après on a eu Sarko. Et voilà, et donc en 8 ans, on n'a eu quasiment que de la politique répressive, et ça n'a rien changé, tout a empiré. Les coûts sociaux sont énormes en termes d'accidents, de troubles majeurs de la santé, de dangerosité interindividuelle, d'entrave à la scolarisation, etc. Voilà, donc...
Ce que dit Monsieur Rock, hein, là, c'est pas toi qui le dis. Hein, parce que j'ai l'impression que c'était toi. Mais non,
c'est pas moi qui le dis, tout à fait.
C'est bien lui, hein, voilà. Donc, Monsieur Rock déplore le virage sécuritaire qui a été pris à partir de 2002 et salue justement le travail de la milte de l'époque de Madame Maestrachi.
Ouais, et il rappelle même, hein, donc, il s'en est suivi une série de mesures tellement coercitives qu'elles sont vite apparues inapplicables. Pendant ce temps, on rétablissait la publicité pour le vin et le premier journal sportif français utilisait le tiers à sa une.
Lors des journées fastes pour le sport français, avantait les mérites d'une boisson anisée en assortissant l'image d'un slogan associant la consommation de ladite boisson et de la victoire relatée au-dessus. On abandonnait également l'interdiction du privilège accordé aux bouilleurs de cru. Ah oui, le fameux livre blanc des alcooliers, l'a remis par Raffarin à Chirac. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples de l'interdiction, de destruction lente de la loi Evin, et j'en étais ouvert par lettre sans grand succès auprès de l'Académie de médecine. Académie de médecine, ouvertement prohibitionniste et pro-lobby alcoolier, d'ailleurs. C'est formidable pour une Académie de médecine. Il y a quand même, il salue quand même l'initiative de Roselyne Bachelot qui s'était émue de l'augmentation de la consommation d'alcool chez les jeunes et qui a eu le courage de prendre quelques mesures pour tenter de réduire cette surconsommation.
Elle a interdit entre autres la vente d'alcool aux moins de 16 ans et elle a lutté contre la pratique des happy hours.
Voilà, mais bon, il y a lieu de douter de toute l'efficacité de ces petites mesures quand on connaît la puissance du lobbying alcoolier en France. Et les mesures de Roselyne Bachelot visant à limiter un peu tout ça ont été extrêmement critiquées au sein même du Parlement. Et ensuite, il nous dit, il y a quand même des points encourageants. Le message répressif a été repris par la sécurité routière. Depuis les textes de Madame Bachelot, les médias ont diffusé à une plus grande fréquence des messages insistant sur la dangerosité de l'alcool au volant. Ils trouvent ça très positif. Ce qui l'est moins, c'est le discours tenu lors du recours aux organismes de récupération des points perdus. Voilà. Alors après, il parle pas de la diabolisation du cannabis et de la conduite automobile et des mensonges répandus par les médias, les politiques sur ce sujet, qui font très vite l'amalgame entre alcool au volant et alcool plus cannabis et cannabis seul. Donc pour eux, ils mettent tout dans le même sac. Ils parlent de drogue au volant, alors qu'en fait, ce qui est vraiment dangereux au volant, c'est l'alcool, et c'est l'alcool mélangé avec du cannabis et non le cannabis mélangé avec de l'alcool. Nuance, mais c'est pas pareil. Parce que l'alcool seul est beaucoup plus accidentogène que le cannabis seul, qu'il est très peu finalement, et qui est beaucoup moins accidentogène qu'une consommation même légale d'alcool. Donc voilà, voilà,
on va déborder, on va pas revenir sur la milte qui n'est pas revenue sur le... sur le fait que l'alcool est une drogue. Alcool, abus, dépendance, différentes choses. Bon, rappelez l'alcool, regardez, hein, 2 à 15% sont vraiment dépendantes selon les pays. Donc en France, 50 000 morts. Après, il faudrait socialiser l'usage. Surtout, l'autre chose, c'est ce qui est important. Et faire en sorte que les gens ne consomment pas n'importe comment et à trop forte dose, voilà, sans savoir ni pourquoi ni comment. Voilà, d'où le bon livre de la drogue, savoir plus, risquer moins. Donc il conclut là-dessus, je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure, parce qu'après on va vraiment déborder.
Oui, et ben voilà, on va terminer là-dessus. Une fois de plus, je vous redonne les coordonnées les coordonnées électroniques de cet article, donc http://lettres-cdf.revue.org/288. Sinon, vous tapez Rock, Bernard Rock, Collège de France sur Google et vous devriez trouver trace de cette interview extrêmement intéressante qui date certes de 2010 mais ô combien actuelle encore aujourd'hui. Voilà, on va se quitter là-dessus. Donc, vous venez d'écouter Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon, Cirque collectif d'information et de recherche cannabis lyonnais, que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07. Et là, j'en profite pour vous dire, si vous avez des problèmes avec la police, la justice, s'il vous plaît, et que vous voulez de l'aide, s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment pour nous contacter. N'attendez pas voilà, d'être convoqué au tribunal le lendemain ou la semaine d'après, parce que là, on ne pourra pas vous aider, clairement. Si vous nous contactez suffisamment avant, on peut vous mettre en relation avec des juristes ou des avocats qui vous défendront et qui accepteront même de le faire à l'aide juridictionnelle. Si vous êtes voilà, si vous avez des petits revenus et que vous pouvez prétendre à l'aide juridictionnelle, donc faites-le vite si vous voulez notre aide. Contactez-nous rapidement, n'attendez pas le dernier moment. Merci. Vous pouvez nous contacter par voie postale, Cirque Lyon, BP 93 043 69 605 Villeurbanne Cedex. Vous pouvez nous envoyer un petit mail, cirque-lyon@no-log.org. Et enfin, visitez notre site internet www.cirque-lyon.fr. Voilà, on se dit à la semaine prochaine, ou pas ?
Ouais.
Ah bah oui, non mais j'étais pas sûr que tu viennes, parce que on rentre un peu dans une période de vacances, de fêtes de fin d'année. Moi, je suis dispo, je pense venir. Et toi aussi ?
À la semaine
prochaine.
C'est cool,
alors à la semaine prochaine pour un nouveau Cannabis Circus. Merci à toutes, merci à tous de nous être fidèles et de nous avoir écoutés. Merci à Michel, merci à Isabelle qui nous écoute fidèlement, Nicolas aussi... qui nous écoute tous les lundis et qu'on remercie chaleureusement.
Ciao les amis. Voilà,
au revoir.
Et Ivan aussi. Ivan.